Le rendez-vous scientifique.
Bonjour, c'est Patrick. Aujourd'hui, nous allons parler des ondes électromagnétiques. Et plus particulièrement, faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques ?
C'est un sujet qui peut faire polémique. Il y a de nombreux gourous et de faux spécialistes. Qu'en pensez-vous ?
En effet, la question est importante. Lors de ma carrière en tant qu'ingénieur de recherche au CNRS, j'ai travaillé sur de grands projets internationaux de physique, des particules et d'astroparticules. Dans ces domaines, il était nécessaire de mesurer des signaux extrêmement petits. Et pour cela, il était nécessaire de réduire le plus possible toutes les perturbations électromagnétiques. Par exemple, l'un de mon dernier projet, la sensibilité du détecteur était équivalente à voir une luciole, c'est-à-dire un petit insecte lumineux qui émet une lumière vert jaune, sur la Lune. On peut imaginer que, compte tenu de la distance, la sensibilité de l'appareil est phénoménale. Donc, il était nécessaire de bien connaître les ondes électromagnétiques et leurs perturbations pour mieux s'en protéger. Référent dans ce domaine, j'ai formé de nombreux techniciens et ingénieurs à cette thématique.
Aujourd'hui, avec toutes les sources d'informations qui nous arrivent, comment savoir si ce que l'on nous raconte est pertinent ?
En effet, cela peut sembler compliqué. Dans un premier temps, on peut se poser la question suivante. Est-ce un fait scientifique ? Cela sous-entend que l'on peut prouver qu'une affirmation est vraie ou fausse. Par exemple, si on prend des exemples un peu amusants, si je dis que toutes les vaches ont les yeux bleus, cette affirmation est un fait scientifique. Curieusement, c'est un fait scientifique, car je peux facilement réfuter et prouver que c'est faux. Mais si j'affirme que les vaches dans le champ bordant la voie ferrée d'à côté sont là pour amuser les voyageurs des trains, il est impossible de prouver que c'est vrai ou faux. Ce n'est donc pas un fait scientifique. Prenons un exemple un peu plus sérieux. On nous explique, dans de nombreux médias, que la pollution atmosphérique cause 48 000 décès par an. C'est un chiffre qui n'est qu'une hypothèse basée que sur des études mathématiques qui estiment a priori le nombre de décès causés par des particules inférieures à 2,5 microns. Dans ce domaine, une étude américaine annonçait pour la France 100 000 morts. En fait, on n'en sait rien. Cela peut être deux fois plus ou deux fois moins. Donc, il faut être vigilant. Réfuter ce genre de chiffres ne veut pas dire que le danger n'existe pas. Une étude pertinente consiste à étudier un grand nombre de cas et de le comparer à un groupe témoin. Mais cela est extrêmement compliqué.
Dans un premier temps, Patrick, peut-on définir une onde ?
Oui, alors on va essayer. Une onde, c'est une oscillation, une vibration qui se propage au cours du temps. Par exemple, lorsque l'on jette un caillou dans l'eau, la vague engendrée permet d'illustrer le battement de l'onde. On voit se propager une onde tout autour du caillou. On s'aperçoit que cette oscillation est composée de creux et de pics. On parle de minimum et de maximum. Le temps que met l'onde à reproduire un minimum ou un maximum correspond à la période de l'onde. L'inverse de la période est la fréquence et s'exprime en Hertz, du nom du physicien allemand Heinrich Hertz. La fréquence est donc tout simplement un nombre de battements par seconde. Dans le domaine qui nous intéresse, on utilise une autre notion qui est la longueur d'onde. La longueur d'onde correspond à la distance parcourue par la lumière pendant un temps équivalent à la période de l'onde.
Peut-on simplement définir ce qu'est une onde électromagnétique ?
Une onde électromagnétique est une vague d'énergie qui se propage dans l'espace sans avoir besoin de matière, contrairement au son qui a besoin d'air pour se propager. Ce sont les molécules de l'air qui, dans ce cas, font vibrer ou encore à la vague qui a besoin de l'eau comme support.
Dans la terminologie, il y a électro et magnétique. Qu'est-ce que cela signifie ?
En effet, dans un premier temps, voici deux notions qui sont simples. Prenons un aimant. Celui-ci va attirer une petite aiguille. Si l'aiguille est attirée, c'est qu'il y a une force invisible, c'est la force magnétique. Plus on va s'éloigner Plus on va éloigner l'aimant de l'aiguille, et plus la force d'attraction sera faible. Et à partir d'une certaine distance, l'aiguille ne sera plus attirée. Tout l'espace sous influence de l'aimant correspond à ce que l'on appelle le champ magnétique. Maintenant, reprenons une expérience que tous les enfants ont faite. Frottons une règle en plastique sur notre vêtement. Celle-ci est alors capable d'attirer des petits bouts de papier ou encore des cheveux. Que se passe-t-il ? La règle est composée d'atomes et d'électrons qui gravitent autour. La règle est électriquement neutre, c'est-à-dire que les charges positives des protons sont compensées par les charges négatives des électrons. Lorsque l'on frotte la règle, on vient arracher des électrons, ceux qui sont le plus extérieur des atomes. La règle a donc moins de charges négatives et plus de charges positives. Ces charges électriques positives vont attirer toutes les charges négatives à proximité afin de retrouver la neutralité initiale. Plus la règle sera éloignée des petits bouts de papier et plus il sera difficile de les attirer. Toute la zone sous influence est appelée zone du champ électrique. De même, quand nous marchons sur de la moquette et que nous touchons un objet métallique, un arc électrique peut se produire, ce qui est, vous en conviendrez, assez désagréable. En marchant, en quelques pas, nous nous chargeons positivement à environ 2000 volts. Maintenant, revenons à notre onde électromagnétique. Lorsqu'un champ magnétique et un champ électrique vibrent ou oscillent conjointement, il y a formation d'une onde électromagnétique. Ces deux champs sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, comme deux vagues qui se croisent en avançant dans la même direction.
Et où trouve-t-on ces ondes ?
On trouve ces ondes un peu partout. La lumière visible, les ondes radio, les micro-ondes, les radio X, les rayons X, pardon, en radiologie, les rayons gamma, les infrarouges et ultraviolets. Ces différentes ondes se distinguent par leur fréquence, c'est-à-dire leur vitesse de vibration.
Si je comprends bien, les ondes électromagnétiques sont partout.
En effet, elles sont partout. On peut même dire que l'on baigne dans un champ d'ondes électromagnétiques. Il est donc illusoire de tenter d'aller dans des zones où il n'y a pas d'ondes. De plus, certaines ondes liées aux particules cosmiques que nous recevons en permanence peuvent avoir des énergies considérables.
Comment se déplacent ces ondes électromagnétiques ?
Les ondes électromagnétiques se déplacent très vite. Dans le vide, elles vont à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Elles n'ont pas besoin de support et peuvent voyager dans l'air ou encore dans le vide de l'espace. C'est ce qui permet par exemple aux sondes spatiales très éloignées de communiquer avec des stations sur Terre.
Et comment ces ondes sont produites ?
Les ondes électromagnétiques sont produites dès que des charges électriques se déplacent. Dans une antenne radio, par exemple, les électrons oscillent et créent une onde radio. J'aimerais revenir sur ce point. À notre domicile ou encore à notre travail, nous avons évidemment de l'électricité. Des prises électriques fournissent du 220 volts, une tension exprimée en volts, va engendrer un champ électrique. De même, un courant exprimé en ampères va engendrer un champ magnétique. Pour s'en convaincre, une boussole placée au-dessus d'un fil électrique alimenté par une pile va s'orienter perpendiculairement au fil. Le courant engendre bien un champ magnétique. Prenons un appareil branché sur une prise avec un interrupteur, une lampe par exemple. Lorsque l'interrupteur est ouvert, aucun courant ne circule, la lampe est éteinte. Le courant correspond à des électrons qui vont circuler. C'est eux qui vont créer le champ magnétique. Il y a, dans ce cas, uniquement une tension. C'est un champ électrique. Dans ce cas, il n'y a pas d'onde électromagnétique créée. Maintenant, fermons l'interrupteur. Il y a toujours une tension, un champ électrique, et conjointement un courant, un champ magnétique, et la lampe s'allume. Dans ce cas, il y a une onde électromagnétique de créée. En résumé, dès que l'on utilise un appareil électrique sur le secteur, il y a formation d'une onde électromagnétique.
On dort souvent à côté de prises, de lampes de chevet. Est-ce que ça peut perturber le sommeil ? Est-ce que c'est dangereux ?
Non. Alors, à partir du moment où l'appareil n'est pas en état de marche, il n'y a pas d'onde électromagnétique.
Très bien.
Si la lampe est allumée, oui, il y a une onde électromagnétique.
Et pour les appareils sur batterie, du coup ?
Alors, la question est intéressante. Sur batterie ou pile, il n'y a que du courant continu, sans oscillation, donc sans vibration, donc pas d'onde électromagnétique de créer.
On parle de spectre électromagnétique. À quoi cela correspond ?
Le spectre correspond à la gamme de fréquences des ondes étudiées. Il y a trois grandes catégories. Les basses fréquences, tous les appareils électriques du quotidien. Les radiofréquences, par exemple, la radio, la télé, les téléphones portables. Les radiations ionisantes, qui ont des fréquences très élevées, au-dessus de 300 gigahertz. Le giga étant un milliard. Par exemple, les rayons X ou les UV. Donc, je rappelle qu'on appelle radiation ionisante une radiation qui peut perturber la matière. Par exemple, les UV du soleil vont nous donner des coups de soleil, vont perturber les cellules de la peau. Le risque augmente avec la fréquence. Les micro-ondes, radiofréquences, peuvent cuire des aliments, donc potentiellement nocifs si l'on ne respecte pas les recommandations du fabricant.
Quels sont les effets du champ électromagnétique ?
Alors, pour bien comprendre les effets du champ électromagnétique, il faut considérer indépendamment le champ magnétique et le champ électrique. Pour limiter le champ magnétique, il faut l'absorber avec une épaisseur importante de métal ferreux, par exemple. Le champ magnétique est très pénétrant. En médecine, pour l'imagerie par IRM, un fort champ magnétique, c'est le bruit qu'on entend, pulser, va polariser les protons de notre corps et les orienter. Il y a donc un effet sur l'homme. Assurez-vous, une IRM, de temps en temps, ne pose pas de problème particulier. Le champ électrique n'est pas pénétrant du tout. Une simple feuille d'aluminium suffit à le réfléchir comme un miroir.
Dans notre quotidien, y a-t-il par exemple des sources qui sont préoccupantes ?
Alors, il faut savoir qu'il y a des recommandations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Les appareils qui dépassent largement ces recommandations sont les appareils dotés d'un moteur, donc à fort champ magnétique, comme par exemple le sèche-cheveux, le rasoir électrique, l'aspirateur. Une plaque à induction génère un fort champ magnétique, mais celui-ci est bien canalisé. Ce champ préfère circuler dans le métal que dans l'air. À 30 cm, il n'y a plus de danger. Pour une forte puissance de 6000 watts environ, le champ à 30 cm n'est que d'environ 1 ampère par mètre. Les porteurs d'appareils auditifs peuvent entendre un léger bourdonnement sans danger. En principe, les porteurs de stimulateurs cardiaques ne risquent rien. Par précaution, ne restez pas collés à la plaque.
La majorité des gens en ont un à leur maison. Qu'en est-il au niveau des fours à micro-ondes ? Est-ce qu'ils posent un problème ?
Alors, le four à micro-ondes est un cas intéressant. Tout le monde a vu que sur la porte de son four à micro-ondes, il y a un grillage nid d'abeilles pour empêcher les ondes de sortir. En fait, ce n'est pas complètement vrai. On peut faire l'expérience suivante. Prenez votre téléphone portable et placez-le dans le four à micro-ondes. Évidemment, on ne l'allume pas. Fermez la porte, puis avec un autre téléphone, appelez-vous. Votre téléphone va sonner. Donc les ondes passent. En fait, le grillage n'arrête pas les ondes, mais les atténue. Lorsque vous utilisez votre four à micro-ondes, évitez de rester collé à la porte.
On a entendu beaucoup de polémiques à propos du compteur Linky et des téléphones portables. Qu'en est-il ?
Alors, le compteur Linky ne pose aucun problème particulier. Ce qui rayonne un peu, c'est le fait d'utiliser de l'électricité. Le téléphone portable est un cas très intéressant. Il y a eu plein d'études sur le sujet qui allaient dans le sens de ceux qui les initiaient. Faire une étude sur le sujet est extrêmement compliqué. Il faut un très grand nombre de sujets que l'on doit comparer à une population témoin. À ce jour, la seule étude correcte qui existe a été réalisée par l'OMS. Cette étude est accessible en ligne. Alors, pour aller un peu plus loin, cette étude a étudié quatre risques. Je dis bien quatre risques potentiels. Le risque lié au champ magnétique, au champ électrique, à l'effet micro-ondes, comme le téléphone est à peu près dans les mêmes fréquences que le four à micro-ondes, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne va pas nous cuire le cerveau ? Et quatrième risque, la peur.
Moi je sais que par exemple je dors avec mon téléphone À côté de moi, à 20 cm de moi, c'est pas recommandé.
Non, ça ne pose pas de problème particulier, on va voir. Dans le cas du téléphone portable, pour la raison suivante, le champ magnétique rayonné est extrêmement faible. L'antenne du téléphone, qui est à l'intérieur du boîtier, c'est une antenne filaire, c'est un petit bout de fil, qui ne rayonne essentiellement que du champ électrique. Pour rayonner du champ magnétique, il faudrait une boucle, et ce n'est pas le cas. Donc, il y a un peu de champ magnétique, mais extrêmement faible. Alors, comme on a vu précédemment, celui-ci n'est pas pénétrant du tout. Par contre, l'effet micro-ondes est l'effet que l'on peut le mieux calculer. On peut le quantifier, on peut calculer, d'un point de vue mathématique. Le réchauffement du cerveau par le téléphone est extrêmement faible, voire quasiment nul. Donc, pas de risque de cuire notre cerveau. Le dernier risque, c'est la peur. La peur est l'effet le plus compliqué à appréhender. Dans la mesure où les gens ont peur, il est très difficile de les convaincre. Pour cette simple raison, l'OMS préconise de limiter son temps au téléphone et de privilégier un kit main libre. Par contre, certains individus ont utilisé cette recommandation pour dire que si l'OMS préconise de limiter ses appels, ils en ont conclu que c'est dangereux.
Pour le téléphone, les constructeurs mettent en avant le DAS. Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le DAS ou DAS, c'est un acronyme qui signifie débit d'absorption spécifique et s'exprime en watts par kilo. C'est-à-dire selon votre poids, le nombre de watts que vous êtes capable, la puissance que vous êtes capable d'encaisser. Ce paramètre fait référence à la puissance absorbée par votre corps pour chaque kilogramme. Ce paramètre ne présage absolument pas des dégâts que causeraient les ondes. Il existe une limite réglementaire fixée à 2 watts par kilo. Remarquons que plus ce chiffre est faible et plus la puissance émise reçue sera faible. Pour un téléphone, rassurez-vous, la radiofréquence est relativement faible, de 0,2 à 0,6 watts. Donc on est bien en dessous des recommandations.
Les gens n'aiment pas avoir une antenne relais près de chez eux.
Alors il y a deux problèmes avec les antennes relais. Le côté inesthétique et la dangerosité des ondes émises. Alors sur le côté esthétique, je laisse ça à l'appréciation de chacun. Il faut savoir que la puissance émise par les antennes relais est relativement faible, environ 30 watts. C'est pour cette raison qu'il y en a beaucoup. L'onde émise, c'est une onde plane. Alors qu'est-ce que c'est qu'une onde plane ? C'est une onde, il faut imaginer, prenons notre main à plat, les doigts écartés. C'est une onde qui ressemble un peu à la main avec des lobes qui seraient les doigts. Et cette onde plane est anisotrope. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle a une direction privilégiée. Donc si on imagine cette onde avec des lobes comme les doigts d'une main, eh bien cette onde est légèrement inclinée vers le sol. Il y a très peu d'énergie vers le bas, en dessous de l'antenne. Le champ rayonné décroît avec la distance. À 10 mètres, le champ est divisé par 10. La puissance émise est quant à elle divisée par le carré de la distance, c'est-à-dire à 10 mètres, elle est divisée par 100. Donc, il n'y a pas de vrai danger, sauf à être collé à l'antenne, mais personne n'est collé à une antenne relais.
Qu'en est-il des personnes électrosensibles ?
Alors ça, c'est des choses que l'on a pu voir, des reportages dans les magazines. Il y a des gens qui sont électrosensibles. Ces personnes perçoivent les ondes électromagnétiques et cela les rend malades. Mal de tête, vomissements, diarrhée, un tas de maux. Quoi qu'il en soit, ces personnes sont en souffrance. Elles sont vraiment malades. D'un autre côté, la science n'a jamais mis en évidence de telles interactions, malgré tous les essais qui ont été faits, des tests en aveugle. Certaines personnes se promènent avec un casque grillagé sur la tête. Alors, comme on a vu précédemment avec le micro-ondes, un grillage n'arrête pas les ondes, mais les atténue simplement. Donc, il y aura toujours des ondes qui vont passer.
Est-ce qu'on peut noter juste une amélioration ? Parce qu'il y a des personnes qui s'isolent, qui partent vivre très loin dans la nature. Est-ce qu'on peut constater...
Alors, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure. On baigne dans un champ d'ondes électromagnétiques.
Voilà.
Et même en ce moment, on parle d'aurore boréale, c'est-à-dire qu'il y a une activité intense pour voir des aurores boréales dans le 0,4 ou le 0,5, il faut vraiment que les particules qui sont éjectées par les jets solaires soient vraiment intenses. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, on trouve ça beau, mais c'est ionisant quand même. Hein. Donc, le bouclier magnétique qui est autour de la Terre permet, on appelle ça aurore boréale, parce que le bouclier magnétique autour de la Terre les oriente, les dévie vers les pôles, donc dans les zones boréales.
Et y a-t-il, par exemple, Patrick, d'autres phénomènes électromagnétiques importants ?
Alors oui, alors il y a un autre phénomène qui génère des ondes électromagnétiques qui est vraiment très 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 important, on n'y pense pas, avec des effets notoires, c'est la foudre. Il y a en France environ 1,2 million d'impacts de foudre par an. Alors, tous les impacts ne sont pas importants. Dernièrement, dans la région de Toulouse, il y en a eu un phénoménal qui avait environ de 200 kiloampères. Donc 200 000 ampères pendant un temps d'une durée par microseconde, c'est-à-dire un millionième de seconde. C'est phénoménal. Quand on sait que c'est le courant, la variation du courant qui va générer une onde électromagnétique, du champ magnétique, on peut comprendre que le champ magnétique qui va être engendré va être phénoménal. Alors en France, il y a environ 40 personnes qui sont foudroyées chaque année et 15 vont malheureusement décéder. Alors c'est un peu, ce que je veux dire, c'est un peu dur à entendre. Compte tenu du nombre d'impact, le chiffre est faible. Mais c'est quand même malheureux pour ces personnes qui ont eu la malchance, je dirais, d'être en dessous la foudre. La destruction des matériels est conséquente. Par exemple, 20 000 compteurs électriques sont détruits tous les ans. La réparation des lignes téléphoniques coûte environ 10 millions d'euros par an, mais ce dernier effet s'atténue grâce au déploiement de la fibre optique, qui est donc insensible au phénomène. Alors c'est un phénomène qui est vraiment important. Donc on a vu donc des courants très importants pendant un temps extrêmement court, et c'est le champ magnétique qui est délétère. Parce que le champ magnétique qui est engendré, sans être foudroyé directement, un appareil électrique qui se trouve à 200 mètres d'un impact de foudre, eh bien, il peut exploser. Simplement parce que dans toutes les petites surfaces qu'il y a à l'intérieur, ça va générer des tensions énormes et ça va détruire le matériel. Donc, il faut se protéger avec des... Les bâtiments officiels sont protégés par des paratonnerres. Alors, il ne suffit pas de mettre un paratonnerre. Hein. C'est-à-dire que on croit qu'un paratonnerre va attirer la foudre. Non, un paratonnerre n'attire pas la foudre. Par contre, si la foudre tombe sur le paratonnerre, ce qui est en dessous, et si le paratonnerre est bien connecté, avec des larges rubans de cuivre à la terre, eh bien, le bâtiment en dessous est protégé. Généralement, sur les bâtiments publics, il y a une forêt de petits paratonnerres tous les quelques mètres. Par exemple, un autre exemple, à Paris, la foudre, le paratonnerre, il y a un super paratonnerre qui se trouve sur la tour Eiffel, n'a jamais empêché la foudre de tomber sur le champ de Mars qui est au pied de la tour Eiffel.
Eh bien Patrick, merci. Rendez-vous le mois prochain.
Avec plaisir.
À bientôt.